C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez et que Jésus est le Fils, le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est toujours très émouvant d'entendre ces récits d'apparition de Jésus ressuscité, la façon dont elle a été vécue. C'est même un peu solennel dans cette scène qui se déroule en plusieurs phases successives. L'apparition aux 11, l'envoi en mission, très important, qui se trouve au cœur même. L'envoi en mission, recevez l'Esprit Saint avec ce souffle de Jésus qui rappelle une nouvelle création. Et puis l'envoi en mission, la mission c'est de remettre les péchés. Et puis alors cette troisième phase qui est celle de la question de la foi en la résurrection à travers l'attitude de Thomas qui se campe sur sa façon de vouloir tout vérifier et ainsi de constater lui-même en voyant et en touchant que Jésus est bien ressuscité. C'est un peu nos questions d'ailleurs, beaucoup de gens se posent des tas de questions sur le corps du ressuscité. Est-ce que notre corps ressuscité sera un corps beaucoup plus jeune que celui que nous avons? Est-ce que nous aurons les mêmes handicaps que nous avions avant? Est-ce que, enfin, etc. La liste des questions est évidemment sans fin. Et les réponses de l'Écriture sont pas forcément si évidentes que cela et si nettes que cela. On sait bien qu'il y a eu des moments où le corps a vécu des transformations. Par exemple, Jésus, au moment de la transfiguration, a eu temporairement un corps métamorphosé, nous dit saint Luc. On sait que Jésus a fait revenir à la vie terrestre au moins 3 personnes, à savoir le fils de la veuve de Naïm, qui était un fils unique, et aussi la fille de Jaïr, qui semble-t-il était une fille unique aussi, et puis son ami Lazare. Mais ce ne sont pas à proprement parler des résurrections, ce sont des retours à la vie terrestre. Et ces personnes-là ont dû à nouveau affronter le passage de la mort. Mais ce sont des signes miraculeux, des signes forts qui annoncent, qui préfigurent la résurrection de Jésus. Mais la résurrection, que ce soit pour les Juifs ou pour nous, ça demeure quelque chose de difficile à penser et de difficile à imaginer. Pour les Juifs, à l'époque de Jésus, on sait bien qu'il y a quelque chose qui coinçait très fort, c'est qu'ils pensaient que la résurrection, c'était pour la fin des temps, donc une perspective eschatologique, et puis que la résurrection, ce serait collectif. Tout le monde serait ressuscité d'un seul coup, voilà. Et donc une résurrection personnelle, comme c'est le cas pour Jésus, c'était quelque chose qui était d'une part très innovant dans leur perspective, mais aussi qui était quelque chose d'impossible à imaginer. Et on voit bien que lorsque Marie-Madeleine, par exemple, est au tombeau et qu'elle voit quelqu'un à côté, elle ne reconnaît pas Jésus, elle pense que c'est le jardinier. Lorsque les deux disciples font route vers Emmaüs et qu'ils voient quelqu'un à côté d'eux, ils ne pensent pas que c'est Jésus, ils pensent que c'est un voyageur comme eux. Et donc il y a une sorte de difficulté à admettre la possibilité de la résurrection. Et puisque lorsqu'il y a une véritable reconnaissance, comme ce fut le cas pour tout cela, et bien ensuite, il demeure qu'il y a une distanciation. Jésus dit à Marie-Madeleine de ne pas le toucher, par exemple, parce qu'il n'est pas encore monté vers le Père. Et puis lorsque les deux disciples reconnaissent Jésus, d'un seul coup, c'est comme si c'était évaporé. On nous dit qu'il devient invisible, avec un mot dans le grec qui est absolument unique, aphantos, ça veut dire sans apparence. Voilà, Jésus s'est évaporé. Alors, à la fois reconnaissance et puis distanciation, et pour nous, nous sommes affrontés toujours à ce mystère. La résurrection demeurera toujours un mystère. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, nous dit bien que le corps ressuscité de Jésus, c'est vraiment le fondement de notre foi chrétienne. Il nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, sous-entendu avec un corps de gloire, si le Christ n'est pas ressuscité, alors vide est notre enseignement, vide est notre message. Jésus, qui est interrogé pendant sa vie publique sur la question de la résurrection, Jésus, semble-t-il, est resté évasif. Il a dit, les fils de la résurrection ne peuvent pas mourir, ils sont égaux des anges, ils sont fils de Dieu. Alors, il y a la mention des anges qui fait qu'on peut se dire que le corps de résurrection est un corps spirituel. C'est ce que va dire saint Paul après, lorsque, en l'an 50, il s'exprime aussi dans la lettre aux Corinthiens. Il dit qu'un corps ressuscité, c'est un corps spirituel, un corps incorruptible, un corps immortel et glorieux. Un corps transformé à l'image de du Christ ressuscité. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire jusqu'à présent, et ça demeure pour nous un mystère de foi. Et pour parvenir à la foi, on voit que la main de Thomas ou de Marie-Madeleine qui voulait toucher n'est pas très utile, et que ce qui est le plus utile, c'est pas forcément la vue non plus, mais c'est l'oreille. En effet, lorsque Marie-Madeleine est au tombeau, eh bien, elle s'apprête à trouver le corps de Jésus, elle cherche le corps de Jésus, mais elle voit deux anges qui lui annoncent un message oral. Et lorsque Thomas est absent, on lui donne un message oral aussi, mais il ne veut pas le croire. Il exige de toucher et de voir. Mais pourtant, lorsque ce sera la possibilité qui lui sera offerte, Jésus va lui faire comprendre qu'une foi qui veut voir et même toucher, c'est une foi de second rang, une foi déclassée, une foi dont la date de péremption est déjà proche, n'est-ce pas, avec une réduction de 30%. C'est vraiment une foi de seconde main. La vraie foi, c'est la foi qui croit sans voir. De cela, l'apôtre Jean est le plus grand exemple qui nous soit donné dans l'Évangile. Mais Thomas, vraiment, ses doutes sont problématiques. Alors, nous avons, nous aussi, des doutes. Il y a des doutes stériles, il y a des doutes féconds. Les doutes féconds, c'est ceux qui nous permettent d'approfondir, d'aller plus loin. Les doutes stériles, c'est les doutes où nous restons bloqués sur une façon de penser, où nous disons, puisque c'est comme ça, voilà, j'irai pas plus loin. C'était un peu le cas de Thomas, et puis brusquement, il a dû évidemment faire un virage à 180 degrés et changer complètement d'attitude. Il faut terminer peut-être en disant que les attitudes de foi sont différentes. Tout chrétien est appelé à croire sans avoir vu, évidemment, à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, mais pour cela, à le recevoir du témoignage des apôtres. Très important d'entendre la proclamation de la foi. Marie-Madeleine est celle qui a été envoyée annoncer la résurrection, ce qui fait d'elle l'apôtre des apôtres. Jean est le premier des disciples à croire en la résurrection de Jésus sans la voir. Thomas, lui, fait une expérience qui est celle de constater que Jésus est bien ressuscité dans la chair. Il aurait voulu la toucher, mais lorsqu'il a vu, il a été convaincu. Il n'a pas touché, probablement. Et quant à nous, eh bien, habités par l'Esprit Saint, nous sommes appelés à croire en la présence de Jésus au cœur de nos vies et au cœur de l'histoire, même si cette histoire est tourmentée, nous avons à confesser que Jésus ressuscité est Seigneur de nos vies et Seigneur de